prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, encore une fois, te bénir et te louer pour ta bienveillance. Seigneur, c'est ta bienveillance qui nous conduit dans ce lieu, c'est ta bienveillance qui nous a sauvés par grâce, c'est dans ta bienveillance que nous vivons, c'est dans ta bienveillance que nous grandissons, c'est dans ta bienveillance que nous pouvons, Seigneur, jour après jour nous tenir. Nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te dire merci parce que tu t'adresses à nous au travers de ta parole. Alors Seigneur, en ces instants, nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole. Nous te prions, dispose nos cœurs et que ton esprit nous illumine, nous éclaire pour que nous puissions comprendre ta pensée et que nous soyons à même de la mettre en pratique. Nous te bénissons, Père, pour ton amour et pour ta grâce dans cette assemblée. Amen. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, mais je sais très bien que je ne vous ai pas manqué, je ne me fais pas d'illusions. Donc, j'ai appris à vous connaître et à connaître votre cœur dur et sec envers moi, mais c'est pas grave. Nous devons aimer sans attendre de retour. C'est le cas de le dire. Bien. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes à la veille de la rentrée des classes et tout doucement, eh bien, demain, le rythme infernal va recommencer. Métro, boulot, dodo, voiture, devoirs, réunion des parents, classeurs, fourniture scolaire. Ah, c'est reparti demain. Après les vacances bien méritées, après beaucoup de tranquillité, eh bien, nous sommes repartis dans un rythme difficile et une vie trépidante, comme Benoît aime le dire. Et que nous soyons travailleurs ou pas, que nous soyons étudiants ou pas, demain, tout va changer. Demain, les transports en commun vont changer de rythme, il y aura plus d'embouteillages, les gens qui étaient en congé vont se remettre à travailler, les trains seront bondés. Demain, tout va changer, la vie de cette société va reprendre. Et la nôtre par la même occasion. Et donc, c'est l'occasion pour nous de nous interroger sur le thème du rôle du chrétien dans la société. Le rôle du chrétien dans la société. Et nous allons lire donc dans Matthieu chapitre 5, et là les versets 13 à 15. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 15. Premièrement, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Le deuxième texte dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 13, et là, les versets 1er à 6. Romains 13, versets 1 à 6. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter des magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir ceux qui font le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pourquoi, c'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Amen. La Bible nous présente l'arrivée de Jésus dans l'humanité comme étant une véritable révolution. La présence de Jésus dans le monde a bouleversé toutes choses. Et comme on le dit parfois dans certains événements qui nous arrivent, il y a eu un avant et un après. C'est bien vrai pour Jésus aussi, il y a eu un avant Jésus, il y a eu un après Jésus. Jésus a apporté quelque chose de particulier au monde, il a marqué un tournant dans la vie de l'humanité. Et il l'a marqué par sa vie, par son enseignement, mais lui-même a proclamé des choses qui ont fait de lui un être à part. Lorsqu'il a dit par exemple, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Alors que le monde dans lequel nous vivons est un monde de ténèbres, l'apôtre Jean dit que le monde entier est sous la coupe du malin, sous l'autorité du malin. Alors que ce monde est un monde qui est privé de la gloire de Dieu, un monde privé de la présence de Dieu, un monde privé de l'éclairage de Dieu. Nous sommes dans un monde qui ne bénéficie pas de la direction, de la guidance de Dieu. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Dire que nous sommes dans un monde de ténèbres, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel nous ne savons pas faire la différence entre le bien et le mal. Les hommes, les femmes ne font pas la différence entre le bien et le mal, c'est les ténèbres. Un monde de ténèbres, ça signifie que nous sommes dans un monde dans lequel l'homme devient esclave de lui-même. L'homme devient esclave de ses passions, de ses désirs, de ses volontés. C'est dire que nous sommes dans un monde dans lequel nous n'arrivons pas à connaître Dieu. Même si la présence de Dieu se voit dans le monde, dans la créature, eh bien nous avons cette difficulté d'atteindre la présence de Dieu. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Un monde dans lequel l'homme est livré à lui-même. Ce qui veut dire que le monde que nous voyons est le reflet des ténèbres qu'il y a dans notre cœur. Ce que nous voyons chaque jour au journal télévisé, la violence, la méchanceté, la pauvreté, est le reflet du mal qu'il y a dans le cœur de l'homme. Un monde de ténèbres. Et Jésus vient dans ce monde pour y apporter la lumière, pour apporter la lumière de la vérité, pour apporter la lumière de Dieu, pour apporter la lumière de cet enseignement, la lumière du salut, la lumière de la grâce. C'est comme si les rayons de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, pénétraient dans notre monde en quelques endroits pour permettre aux hommes de voir ce qui est bien et ce qui est mal, pour permettre aux hommes de connaître Dieu. Un monde de ténèbres, mais Jésus se dit être la lumière de ce monde. Mais bien plus que d'avoir dit qu'il était la lumière du monde, Jésus a aussi parlé de ses enfants, de ses disciples, de ceux qui le suivent, comme étant la lumière du monde. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus a fait de nous ce qu'il est. Lui qui est la lumière du monde, il a fait de chacun d'entre nous une lumière pour le monde. Alors évidemment, vu comme ça, ça peut paraître très vite orgueilleux, ça peut paraître prétentieux de dire « bon, je suis la lumière du monde » et nous, en tant qu'enfants de Dieu, de dire que nous sommes lumière dans le monde. Mais c'est bien ça la vérité de la parole de Dieu, c'est que toute personne qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres, à la lumière de la vie, et parce qu'il suit Jésus, parce qu'il suit celui qui est la lumière, est appelé à être la lumière. Chacun d'entre nous, nous recevons un mandat de Dieu pour être la lumière du monde dans cette terre, dans le lieu où nous vivons, dans la sphère d'influence dans laquelle nous sommes. Ça signifie que par rapport au rythme infernal qui va recommencer demain, par rapport à la société qui dormait et qui va se réveiller, nous n'avons pas une attitude passive. Nous n'avons pas une attitude amorphe. Nous n'avons pas l'attitude de gens qui vont simplement observer le monde se dérouler. Nous avons l'attitude de gens qui savent qu'ils ont un mandat de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Un mandat de Dieu pour être la lumière. Un mandat de Dieu pour apporter la lumière. Un mandat de Dieu pour partager la lumière au monde. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à jouer un rôle particulier dans la société. Nous sommes appelés à jouer le bon rôle à l'intérieur de cette société qui est la nôtre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et l'apôtre va aussi dire que vous êtes, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Tu as un mandat, j'ai un mandat d'être un flambeau dans le monde qui porte la parole de Dieu. Le rôle du chrétien dans la société, en 5 points. Premier point, quel est le rôle du chrétien dans la société, le rôle de l'enfant de Dieu, le rôle du croyant dans la société, premièrement, être des citoyens modèles. Premièrement, être des citoyens modèles. Dieu appelle chacun de ses enfants, chacun des disciples du Christ, à être des citoyens modèles. Le chrétien ne vit pas en opposition avec la société. Il ne vit pas contre la société. Il ne va pas à l'encontre de la société. Il ne veut pas détruire la société. Il ne veut pas faire du mal à la société. Le chrétien ne vit pas au-dessus de la société, comme s'il était supérieur, comme s'il était plus parfait que les autres, comme s'il n'avait pas à se soumettre aux règles du monde. Le chrétien ne vit pas à l'écart de la société. Nous sommes à l'intérieur de la société, nous vivons comme des gens normaux, nous vivons comme tout le monde. Les chrétiens ne vivent pas en vase clos entre eux, avec des règles qui sont uniquement pour eux, une loi pour eux, des autorités pour eux. Ils vivent à l'intérieur de la société, ils vivent dans la société. Le chrétien vit au cœur de la société, à l'intérieur de la société, au cœur de la communauté des hommes. Et au cœur de cette communauté des hommes, nous avons le mandat de Dieu d'être des citoyens modèles. Et le texte de Romains chapitre 13 nous détaille vraiment de façon claire ce que Dieu attend de chacun d'entre nous en tant que citoyen dans la société, en tant que citoyen chrétien dans la société. Premièrement, être un citoyen modèle, c'est être soumis aux autorités de la société. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Nous sommes appelés à respecter les autorités établies dans la société. Qu'ils soient policiers, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient gouverneurs, qu'ils soient bourgmestres, qu'ils soient ministres, qu'ils soient rois. Nous sommes appelés à respecter les autorités qu'il y a dans la société. Nous ne pouvons pas dire « Moi, mon seul maître, c'est Dieu, donc je n'ai de compte à rendre à personne. » Et j'insulte le policier, le bourgmestre, comme certains chrétiens disent parfois, « Moi, le bourgmestre, si je le vois, je lui crache au visage. » Ah ! Ah ! Nous sommes appelés à respecter les autorités de la société. Le chrétien est conscient que l'ordre qu'il y a dans la société est voulu par Dieu. C'est Dieu qui veut que l'autorité existe, qu'elle soit établie et que la société soit ordonnée. Être soumis aux autorités de la société. Être un citoyen modèle, selon Romains 13, c'est faire le bien. Faire le bien. Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Ça veut dire respecter les lois, respecter les règlements, respecter le cadre établi, agir bien dans la société, agir correctement dans la société, respecter le cadre de la société. Selon ce même texte, être un citoyen modèle, c'est payer ses impôts. Personne n'aime payer les impôts, sinon ce ne serait pas des impôts. Mais nous sommes appelés à être des gens, des hommes et des femmes qui payent leurs impôts. Il dit « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez. » Le chrétien est conscient que la société dans laquelle nous vivons a besoin d'argent pour fonctionner. Le chrétien est conscient qu'il est tout à fait normal que chacun contribue au fonctionnement de la société globalement. Le chrétien donne, il paye ses impôts, pas seulement de façon par crainte, mais aussi avec un cœur honnête, en sachant que c'est normal que les choses soient ainsi. C'est normal que les routes soient financées par tout le monde. C'est normal que les fonctionnaires soient payés par tout le monde. Le chrétien paye ses impôts. Selon ce même texte, être un citoyen modèle, c'est donner l'honneur à ceux à qui ils reviennent. On a parlé là maintenant d'être soumis aux autorités, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi donner l'honneur à ceux à qui ils reviennent. C'est-à-dire que les personnes qui dans la société ont une position d'autorité méritent de recevoir de notre part l'honneur qui leur revienne. Alors c'est Romains 13, verset 7. Rendez l'honneur à qui ils reviennent. Et être soumis, c'est se dire « je respecte les autorités ». Rendre de l'honneur, c'est manifester du respect et de la considération envers les autorités qui sont établies dans la société. Le chrétien est respectueux envers ceux qui sont établis dans sa société, dans le lieu où il vit. Il manifeste du respect, le mot honneur, le mot respect à ceux à qui ils reviennent. Être un citoyen modèle, c'est donc être ce citoyen qui est soumis aux autorités, qui les respecte, qui les honore, qui paye ses impôts. Mais c'est aussi être un travailleur modèle, un étudiant modèle. Être un travailleur modèle, Éphésiens 5 nous parle de la relation entre les maîtres et les esclaves. Alors évidemment, aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves, et c'est très bien comme ça. Mais la pensée générale du texte reste en ce que Dieu appelle chaque enfant de Dieu qui travaille sous l'autorité d'un patron, d'un employeur, à obéir à ses patrons et chefs de service. Éphésiens 5, versets 5 à 9. Et il dit même obéir avec crainte, respect et droiture de cœur. Dieu appelle les chrétiens à travailler dans leur travail avec une volonté de plaire à Dieu et non aux hommes. C'est-à-dire que le chrétien est appelé à travailler dans son lieu de travail sous le regard de Dieu. Pas seulement de se dire « parce que le patron me regarde, je vais essayer de bien le faire », mais de faire son travail avec excellence, avec conscience, avec implication, conscient que je fais ce travail pour la gloire de Dieu. Je veux accomplir mon travail droitement, justement, correctement, devant la face de Dieu, avec excellence. Travailler de manière honnête, de manière juste, de manière excellente, sous le regard de Dieu. Évidemment, ça implique d'arriver à l'heure, ça implique de faire le travail convenu, ça implique de ne pas prendre part aux manœuvres de rébellion envers notre employeur. Ça implique de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Comme patron, comme employeur, il y a peut-être des gens ici qui sont patrons, qui sont employeurs, qui sont contremaîtres, qui sont chefs. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à manifester du respect à ceux qui sont sous notre autorité, ceux qui sont chefs, ceux qui dirigent les autres. Qu'est-ce qui dirige les autres ici? Je le savais, hein, c'était pour que tu lèves le doigt. Tu as compris, Priscilla? Tu es appelé à respecter ceux qui sont sous ton autorité. Yvan. Mais Yvan, c'est un patron terrible. Il tape sur la table, hein, Yvan. Celui qui est patron, celui qui est responsable, celui qui est chef de service est appelé à respecter, à aimer, à être honnête envers ceux qu'il dirige. Par extension, ça veut dire que les élèves, les étudiants, sont appelés à respecter leurs professeurs. C'est biblique aussi. Il y a des adolescents ici. Ah ben oui, il y a des adolescents. Oh là là, ils sont là. Les élèves, les étudiants sont appelés à respecter leurs professeurs. C'est aussi la volonté de Dieu. De façon plus générale, être un citoyen modèle, ça veut dire être des hommes et des femmes honnêtes dans les questions d'argent. Rendre l'argent à qui nous le devons. Payer nos factures en temps et en heure. Ne pas voler l'État par la fraude. Restituer ce qu'on nous a prêté. Être honnête dans les questions d'argent. Être un citoyen modèle, de façon générale, c'est ne pas tricher. Ah, il y a encore des adolescents qui sont là. Un chrétien ne triche pas à l'école. Ne pas tricher. Être un citoyen modèle, c'est ne pas frauder. Vous ne connaissez pas ça, vous ne prenez pas le bus, donc vous ne savez pas ce que c'est de frauder. Être un citoyen modèle, c'est ne pas faire de plagiat pour les universitaires. Être un citoyen modèle, c'est accomplir nos devoirs citoyens. Nous arrivons tout doucement dans la période des élections et on voit de plus en plus placardés partout des affiches. Un chrétien prend à cœur la question des élections. Il prend à cœur cela, il s'intéresse Il lit les programmes électoraux. Il prie en se demandant, Seigneur, où est-ce que ma croix doit aller pour te glorifier? Il se fait sa propre idée. Sous le regard de Dieu, il vote, il est conscient qu'il a une part à prendre dans la société, il s'implique dans sa société, il s'implique dans son monde, il vote. Être un citoyen modèle, c'est prendre part à des associations, associations de parents d'élèves, comité de participation, comité de quartier, comité de surveillance, comité de... Prendre part à la vie de la société pour y apporter la lumière. Être un citoyen modèle, c'est prendre soin de l'environnement. Le chrétien est conscient que le monde que nous voyons est l'ouvrage de Dieu, la création de Dieu. Et il a à cœur de respecter cette création-là. Le chrétien ne jette pas ses papiers partout en se disant « c'est pas grave ». Le chrétien ramasse les excréments de son chien. Bon, ça, c'est pas la question. Le chrétien est fidèle dans le tri sélectif. Il économise du papier, il économise de l'énergie, il respecte la faune, il respecte la flore. Il cherche autant que possible à diminuer les gaz à effet de serre. Vous avez déjà certainement tous eu des situations dans vos vies, dans vos lieux de travail, où vous arrivez là, il y a des lumières allumées partout, il y a du chauffage qui va et les fenêtres qui sont ouvertes. Ce n'est pas vous qui payez, vous en fichez. Mais juste par précaution, juste par respect pour l'environnement, vous vous dites, je vais fermer les fenêtres, je vais éteindre la lumière, l'économie d'énergie. C'est-à-dire que le chrétien est conscient qu'il a un rôle à jouer et il n'est pas négligent dans ce rôle-là. Il essaie d'être un citoyen modèle. Le chrétien respecte les règlements. Le tapage nocturne, le tapage diurne, les jours pour tondre. Il respecte les règlements parce qu'il veut être la lumière du monde. Il veut porter un bon témoignage dans la société dans laquelle il vit. Le chrétien est un conducteur responsable et respectueux. Il respecte les limitations de vitesse. Il respecte les règles de priorité. Il fait preuve de courtoisie. Et il conduit de façon non agressive, parce que même en conduisant, il veut encore être la lumière du monde. Céder sa place dans les transports en commun. Le chrétien a une attitude correcte dans les réseaux sociaux, sur le net, parce qu'il veut aussi là être la lumière du monde, dans la société dans laquelle il a été placé. 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Le chrétien cherche à être un citoyen modèle, correct, dans la société dans laquelle il vit. Deuxièmement, le rôle du chrétien dans la société, c'est de rendre témoignage à la vérité. Lorsque Pilate a posé la question à Jésus de savoir « Est-ce que tu es roi ?», Jésus lui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jésus était roi, mais roi d'un autre royaume. Il était bien roi, mais pas roi sur terre, il était le roi d'un autre royaume. Et lorsque Pilate lui demande, Jean 18, 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà une fonction qui n'a rien de mirobolant, ça n'a rien de... Mais il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et de la même façon qu'il a fait de nous ce qu'il est, en faisant de nous la lumière du monde, il a fait de nous aussi des témoins de la vérité dans le monde. Témoins de la vérité. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3, verset 15, parle de l'Église. Il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, nous avons cette vocation d'être la colonne et l'appui de la vérité. Le lieu à partir duquel on proclame la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Une autre traduction dit que l'Église est le rempart et le pilier de la vérité. En théologie, on dit qu'une des fonctions de l'Église, qu'on oublie très souvent, c'est la préservation de la vérité. L'Église est présente dans le monde pour préserver la vérité biblique, la vérité de l'enseignement, la vérité de la parole de Dieu. L'Église est donc appelée premièrement à garder précieusement la vérité des Écritures. Nous devons garder, ça veut dire que nous devons être proches des Écritures, nous devons les connaître, nous devons garder précieusement la vérité des Écritures. Ça veut dire que nous devons préserver cette vérité du mensonge, de la corruption, de la dilution. Ça veut dire aussi que nous devons affirmer cette vérité, proclamer cette vérité. Le chrétien est tolérant. Il respecte les convictions des autres. Il respecte les croyances des autres. Il respecte les opinions religieuses, l'orientation sexuelle des autres. Mais il reste fidèle à l'enseignement des Écritures. Il reste fidèle à sa foi. Et il joue le rôle de simple témoin de la vérité. Le témoin, ce n'est pas quelqu'un qui dérange tous les autres qui sont différents de lui. C'est quelqu'un qui reste fidèle pour affirmer ce que la parole de Dieu dit. Il reste fidèle aux Écritures. Le monde dans lequel nous vivons a besoin que la vérité reste préservée, a besoin de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui restent de fidèles témoins de la vérité. Quelle vérité devons-nous proclamer? Quelle vérité devons-nous affirmer? Premièrement, Dieu existe. L'Église a cette fonction de proclamer et de dire que Dieu existe. L'Église a cette fonction de proclamer et d'affirmer que Dieu est le créateur de toutes choses. Le monde que nous voyons est le résultat de la création de Dieu. C'est ce que nous croyons, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le chrétien respecte, il est tolérant vis-à-vis des autres, il respecte les autres, mais il reste fidèle à la parole. Le rôle du chrétien, c'est de défendre, c'est d'être fidèle à la conception biblique de la famille. Un homme, une femme, des enfants, rester fidèle à la conception biblique de la famille. Il respecte les autres, mais il sait que la famille est le plan de Dieu et il sait qu'il y a un cadre pour la famille dans la Bible. Alors aujourd'hui, voilà des sujets qu'on ne veut plus aborder, qu'on ne peut plus aborder, mais je pose la question, qui va défendre la conception biblique de la famille si les chrétiens ne le font pas? Qui va le faire? Ce n'est pas les politiciens qui vont défendre la conception biblique du couple et de la famille. Ce n'est pas les non-croyants. Nous sommes appelés à rendre témoignage de la vérité de la parole de Dieu. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne jouons pas notre rôle de témoin. Le chrétien proclame la vérité de la parole de Dieu. Il dit par exemple que Dieu a créé tous les hommes égaux. C'est aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu a créé tous les hommes égaux. Les noirs, les jaunes, les blancs sont égaux devant Dieu. Selon la parole de Dieu. Le chrétien affirme la vérité de la parole que les femmes méritent le même respect que les hommes. C'est aussi la vérité de la parole de Dieu. Le chrétien proclame la vérité de la parole, celle des 10 commandements, qui est que seul Dieu mérite l'adoration, les parents méritent d'être respectés, le meurtre est un péché, l'avortement est un meurtre. Ce sont aussi des vérités de la parole de Dieu. Et je me pose la question, si l'Église se tait, qui va parler? Si l'Église se dilue, qui va affirmer la vérité de la parole de Dieu? Le chrétien proclame que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, le seul et unique chemin qui mène à Dieu. Le chrétien proclame que l'enfer est une réalité. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Le chrétien proclame que la Bible est la parole de Dieu. Tant de choses, tant de vérités qui sont dans la parole auxquelles nous devons rester fidèles, auxquelles nous devons rester fidèles et être des fidèles témoins de ce que la parole de Dieu nous enseigne. dans la tolérance envers les autres, dans le respect, sans être insupportable, sans être invivable pour les autres, mais être des fidèles témoins de la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que c'est Benoît, faut pédaler. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est encore les vacances, hein, donc vous n'avez rien à faire après-midi. Donc, je termine, tant pis. Par exemple, je donne un exemple, parce que je crois que c'est aussi le rôle de l'Église d'être honnête sur ce qui se passe dans le monde. Vous en avez déjà entendu parler, mais je donne un exemple de à quel point le chrétien doit rester un témoin fidèle de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la théorie du genre. J'en ai déjà parlé à des multiples reprises. La théorie du genre. Le gender, comme on dit. La théorie du genre, il y a quelques années, on disait « Ouh là là, les chrétiens s'excitent à cause de ça, mais il faut rester calme. » Eh bien, aujourd'hui, la théorie du genre rentre dans les cours de philosophie et de citoyenneté. Cette fameuse heure qui remplace l'heure de religion. La théorie du genre, elle est simple, elle dit tout simplement que on est homme ou femme, mais que indépendamment de cet état de fait-là, chacun choisit à un moment donné de sa vie s'il veut être un garçon ou s'il veut être une fille. Donc ça signifie que vous allez naître avec certains organes génitaux, mais à un certain moment donné, vous choisissez si vous voulez être un garçon ou si vous voulez une fille, être une fille. La théorie du genre, par exemple, enseigne aussi qu'il ne faut pas inculquer aux enfants qui sont une fille ou qui sont un garçon pour qu'ils puissent à un certain moment donné choisir eux-mêmes leur choix, qu'ils puissent faire leur choix de dire « non, moi je veux être un garçon, si moi je veux être une fille ». Donc un enfant de 4 ans, à un moment donné, va être capable de vous dire « ben voilà, oui, j'ai peut-être un organe sexuel masculin, mais moi je pense que je suis une fille » ou le contraire. La théorie du genre dit aussi que l'homme et la femme n'ont pas de complémentarité ontologique, comme on dit. Donc, quand on dit ontologique, ça veut dire de nature. Ça veut dire que, naturellement, l'homme et la femme ne sont pas faits pour être l'un pour l'autre. C'est un conditionnement social. Donc, selon cette théorie, ça veut dire que l'homme et la femme ne forment un couple que parce que c'est la tradition depuis des siècles. Pas parce que ça fait partie de ce qui est normal. Est-ce que vous comprenez l'idée ? Donc c'est de dire que c'est pas parce que Dieu l'a voulu, c'est juste parce que depuis des siècles on dit que l'homme doit être avec la femme, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il n'y a pas de complémentarité entre l'homme et la femme. Or la Bible proclame ardemment cette conception de l'homme et la femme comme étant complémentaires, comme étant égaux et complémentaires. Et voilà une vérité qui, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, seront enseignées à vos enfants. À vos enfants. Alors, si les chrétiens sont dans leur baby room en train de chanter la ribambelle, qui va préserver la vérité de la parole de Dieu ? Qui va dire aux enfants ce que Dieu dit si nous dormons ? Le chrétien reste fidèle à la vérité de la parole de Dieu. Dans ces mêmes cours, on enseigne aux enfants qu'il n'y a pas de normes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'univers de normes. Chacun est sa propre norme, c'est-à-dire que chacun choisit la vie qu'il veut vivre. Il n'y a pas de normes à respecter, il n'y a pas une norme dans la création, il n'y a pas une norme dans la famille, il n'y a pas une norme. Chacun va choisir son rythme, son modèle de vie. Ces mêmes choses sont enseignées petit à petit dans les cours de l'école. Et ici, en Belgique, on est toujours un peu en retard, mais en France, c'est déjà bien plus loin. Vous intéressez-vous à la question et vous verrez les manuels, vous verrez les cours, vous verrez que je n'invente rien. Le chrétien reste fidèle à la vérité de la parole de Dieu. Troisièmement, le chrétien, dans la société, son rôle, c'est de prendre soin de son prochain blessé. Vous voyez la parabole du bon samaritain que Jésus raconte, ce samaritain qui s'arrête sur le chemin de cet homme blessé, de cet homme qui a été laissé pour mort. Il s'arrête pour prendre soin de lui. Et Jésus termine la parabole en disant « Va et toi, fais de même ». Le chrétien est envoyé dans la société pour prendre soin du prochain blessé. Le prochain blessé, c'est ton collègue de travail qui est découragé par la vie, qui ne sait plus où il en est, qui ne sait plus à quoi ressemble sa vie et qui ressent vraiment un découragement. Le chrétien prend soin du prochain blessé. Prendre soin du prochain blessé pour les élèves, pour les étudiants, c'est prendre soin de ce garçon de la classe dont tout le monde se moque. Harceler, moquer, insulter. L'enfant chrétien, le jeune chrétien va prendre soin de celui qui est rejeté par les autres, celui qui est abandonné sur le coin de la route, parce qu'il sait que c'est sa vocation d'être auprès de ceux qui souffrent. Le prochain blessé, ce sont nos amis désorientés, perdus, égarés. C'est celui qui est dans le besoin, celui qui est dans le besoin. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui prennent soin de celui qui est blessé, de celui qui va mal, de celui qui souffre. Dans l'histoire de l'Église, on a, au cours des siècles, on a créé ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. C'est en fait une classification néo-testamentaire des œuvres, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde que la Bible nous invite à pratiquer. Alors il y a les sept œuvres de miséricorde corporelles et les sept œuvres de miséricorde spirituelles. Alors les sept œuvres de miséricorde corporelles, c'est de donner à manger aux affamés, premièrement, de donner à boire à ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui sont nus, d'accueillir les étrangers, d'assister les malades, de visiter les prisonniers, d'ensevelir les morts. Alors évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, mais à l'époque, il fallait payer pour les enterrements, et donc c'était aussi une œuvre de miséricorde. Et évidemment, c'est tiré de Matthieu 25, 37 à 40. Vous m'avez visité lorsque j'étais malade, vous m'avez vêtu alors que j'étais nu. Les sept œuvres de miséricorde corporelle que nous sommes aussi, nous, appelés à pratiquer, nous témoins de la miséricorde de Dieu. Et puis les sept œuvres de miséricorde spirituelle, c'est conseiller ceux qui sont dans le doute, conseiller ceux qui sont perdus concernant leur vie, qui ne savent plus où ils en sont, leur apporter le conseil, un conseil de grâce, un conseil de lumière. C'est enseigner les ignorants, quelqu'un qui ne sait pas par où se diriger, quelqu'un qui est perdu dans la rue, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu ou quelqu'un qui a besoin d'aide à l'école, qui ne comprend pas le cours. Enseigner les ignorants, c'est avertir les pécheurs. Peut-être que quelqu'un autour de toi est en train de mener une vie qui va lui faire du mal, qui va le détruire. Avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. C'est vraiment comme ça que c'est écrit dans les œuvres de miséricorde. Prier Dieu pour les autres. Nous sommes appelés à être ces gens, ces hommes et des femmes dans la société qui s'arrêtent auprès du prochain qui souffre, auprès du prochain qui est laissé pour compte, qui est abandonné, qui a besoin d'aide. Être ces hommes et ces femmes qui peuvent laisser leur Bible pour s'arrêter auprès de celui qui en a le plus besoin. Et puis, quatrièmement et dernièrement, le rôle du chrétien dans la société, c'est de prier pour la société. Prier pour la société. Vous connaissez le texte d'1 Timothée 2, versets 1 à 3, qui nous dit que j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui prient pour le monde. Qui prient pour le monde. Et notre vie chrétienne, elle change lorsque nous nous rendons compte que notre prière est efficace. Notre prière sert à quelque chose. Notre prière a un impact. Lorsque nous prions pour les élections qui arrivent, notre prière a un impact. Lorsque nous prions pour ce monde qui nous entoure, pour les enseignants, pour les professeurs, pour ce monde qui va recommencer demain, notre prière a un impact. Nous levons nos mains vers le monde, et vous connaissez certaines femmes, qui prient comme ça avec une map monde. Vous connaissez ça ? Faut sortir, hein, les amis. Jumet, il y a un monde autour de Jumet, hein. Mais c'est en fait une façon de. En fait, ils ont une map monde et pour aider leur façon de prier, eh ben ils regardent la map monde et ils prient pour le monde, ils prient pour la grâce de Dieu dans le monde. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui prient pour le monde et qui sont conscients que cette prière a un impact. Saint Jean Chrysostome a dit « Celui qui prie a les mains sur le gouvernail du monde. » Ça ne veut pas dire qu'il dirige le monde. Ça veut dire qu'il a les mains sur le gouvernail du monde. Il a les mains dans la sphère où Dieu dirige son monde. Nos prières ont un impact. Notre prière a une importance. Nous sommes aussi appelés à jouer le rôle de lumière en priant pour le monde qui nous entoure. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier. Merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne, elle nous instruit. Et nous voulons vraiment la recevoir avec joie, mais en même temps humblement. Seigneur, nous sommes conscients que dans cette société qui va redémarrer complètement demain, nous avons un rôle à jouer. Nous voulons te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Aide-nous à jouer le bon rôle, Seigneur. Aide-nous à être la lumière dans le monde que nous allons encore affronter demain. Aide-nous à être des citoyens modèles. Aide-nous à être des témoins de la vérité. Aide-nous à prendre soin du blessé qui est à côté de nous. Aide-nous, Seigneur, à prier pour ce monde qui est dans les ténèbres. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous conduire, de nous diriger, de nous fortifier, de nous instruire pour que nous soyons vraiment des lumières. Nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de valeur, nous sommes uniquement des lumières grâce à toi, à cause de la lumière que tu nous donnes. Laisse-nous, Seigneur, vraiment porter ce bon goût et garder en nous cette lumière. Je voudrais te prier pour chacun, pour chaque parent, pour chaque étudiant qui demain va reprendre un nouveau rythme. Seigneur, soutiens chacun et aide-nous vraiment à être la lumière là où tu nous places. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés. Amen. Amen.